Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10, d'où le thème de notre méditation de ce matin, Jésus historique et ou Jésus biblique. Au nom de Jésus. C'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, Tu ne veux ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu ne prends plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ce que tu veux, conformément à ce qui est écrit à mon sujet dans le livre de la loi. Il déclare tout d'abord, tu ne veux ni sacrifice, ni offrande, ni animaux brûlés sur l'autel, ni sacrifice pour le pardon des péchés, et tu n'y prends pas plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Puis il ajoute, me voici, ô Dieu, je viens pour faire ce que tu veux. Ainsi, Dieu supprime tous les anciens sacrifices et les remplace par le sacrifice du Christ. Parce que Jésus-Christ a accompli ce que Dieu voulait, nous sommes purifiés du péché par l'offrande qu'il a faite de son corps, propre corps une fois pour toutes. Amen. Pour ceux qui étaient présents un dimanche, j'avais parlé sur la différence dans la conception de la naissance chez les Coréens du Sud et le restant du monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais je vais le redire. J'ai eu la connaissance de cela lors de mes études à Strasbourg. J'avais une collègue dans ma promotion, une pasteure coréenne, qui m'a interpellé lorsque nous avions pris note des différentes dates d'anniversaire de chaque étudiant dans notre promotion, puisqu'on voulait se féliciter à chaque fois dans la classe où on était, à chaque anniversaire. Et arrivée à son tour, elle nous a répondu, Laquelle voulez-vous savoir? Et on était étonnés, nous répliquons, mais nous souhaiterions savoir la date de ton anniversaire. Oui, je sais. Et avec sérieux, elle nous répondit, Oui, j'ai compris votre question, mais laquelle? Et je lui ai demandé, Mais tu as combien de dates d'anniversaire? Et elle m'a répondu, J'en ai deux. Ah. La première est celle dans ma carte d'identité coréenne. Et donc, j'ai presque un an en plus, car l'État prend en compte des 9 mois de grossesse chez nous. Donc, il compte à partir du premier mois de grossesse l'âge d'une personne chez eux. Mais si je veux m'aligner à votre système classique ici en Europe, j'ai une autre date d'anniversaire. Et à ce moment-là, je trouve que ce système coréen est assez intéressant car c'est vrai, l'enfant vit déjà, ou l'enfant existe plutôt déjà, bien avant qu'il vienne au monde. Et c'est là où je veux en venir. J'ai pris cette histoire pour introduire notre méditation de ce matin, pour nous faire comprendre que l'existence de Jésus ne dépend pas de sa naissance. Peu importe les différents débats sur la date d'anniversaire, où il y a des gens qui dépensent d'énergie sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour dénigrer que les chrétiens ont inventé Noël, et ils ont choisi une date qui ne convient pas à ce qui est réel historiquement parlant. Mais comme la Coréenne ici, elle existait bien avant sa naissance administrative, on va dire. Mais Jésus, lui, il existait depuis des siècles et des siècles, avant même que le Saint-Esprit l'a conçu dans le ventre de Marie. Des tentatives historiques et même scientifiques ont été menées contre la personne de Jésus-Christ, en insistant que le Jésus de la Bible n'a rien à voir avec le Jésus de l'histoire. Le Jésus de la Bible serait une construction théologique une construction narrative pour convaincre l'humanité que ce Jésus de l'histoire a été appelé et considéré comme Dieu par les chrétiens après les conciles. Et même le grand, on va dire, philosophe, celui qui est connu aujourd'hui, Frédéric Lenoir, estimé par beaucoup de gens, quand Jésus est devenu Dieu, d'après ce qu'il avait écrit dans son livre. Mais quel est le sens de la naissance de Jésus? Si nous tenons compte de ce qui a été lu et dit dans cet épître aux Hébreux, il est entré dans le monde pour faire la volonté du Père. Regardez bien cette phrase. Déjà, c'est lui qui a décidé de venir au monde, contrairement à nous. Nous n'avons pas choisi nos parents. Nous sommes nés parce que nos parents ont décidé de nous faire naître. Jésus, c'est lui qui a décidé de venir au monde. Au verset 7, « Alors j'ai dit, je viens pour faire ta volonté. » C'est lui qui a décidé de venir. Il est venu dans le monde par son plein gré. Et c'est lui qui a choisi même sa future mère. Vous voyez, c'est contrairement à ce que nous avons comme habitude. Il a choisi de venir, mais une fois qu'il est entré dans le monde en ayant un corps humain, il a appris ce que c'est que l'obéissance. Même s'il est Dieu, il s'est plié à la volonté humaine. Et je mets cela entre guillemets. Parfois, nous pensons que l'obéissance de Jésus va de soi, mais c'est facile pour lui d'obéir parce qu'il est Dieu. Non, au contraire, ce n'est pas du tout naturel en lui, cette notion d'obéissance. Et je l'ai dit dans la liturgie tout à l'heure, le mot obéissance n'existe pas dans le dictionnaire de Jésus. Un Dieu n'apprend jamais à obéir. C'est quelqu'un qui donne l'ordre. Mais lorsqu'il a endossé ce corps humain, c'est là qu'il a appris à obéir. Non seulement son Père accepter de devenir un être humain, un sacrifice, mais ce qui est plus dur pour lui, obéir à la réalité humaine qu'on lui a imposée, fils de Joseph et de Marie. Obéir à des êtres humains, à cette créature, un Dieu qui se donne totalement et sans retenue à l'être humain. Notre texte ici ne le dit pas explicitement, mais nous fait comprendre quand même entre les lignes qu'il est donné jusqu'à la mort comme étant le seul sacrifice que le Père accepte. Et comme la naissance, ce n'est pas une chose qu'on lui a imposée, mais c'est lui qui a voulu et a choisi de naître. Et c'est lui aussi qui a choisi le moment de mourir. Pas comme l'être humain, suite à une fatalité de la vie, on doit mourir. La mort n'est pas une suite logique en Jésus, mais c'est lui qui l'a décidé. Comme quoi un être humain devrait mourir, et c'est plus que naturel, mais lui, il a dû apprendre ce que c'est que la mort. Jésus a goûté à la mort. Une autre question se poserait quand nous lisons le verset 5 et 8. Il est dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande au Père. » Comment se fait-il alors que l'Épître ici ose dire que Dieu n'a pas voulu de sacrifice? Pourtant, c'est lui en personne qui avait institué les rites sacrificiel mentionné dans le livre des Lévitiques. Et comment se fait-il qu'il ose dire d'un seul coup, « Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande. » Les sacrifices que les gens apportaient à l'Éternel dans l'Ancien Testament, avec toutes les conditions qu'il fallait respecter minutieusement à la lettre, étaient des sacrifices contraignants. Les gens venaient de partout pour apporter des sacrifices, mais cela a été fait dans une atmosphère de contrainte, dans un sentiment d'obligation Il faut le faire si on veut espérer être pardonné. Donc, ce n'est pas par amour, c'est par contrainte. Et Dieu n'aime pas cela. Mais voilà, Jésus se donne en sacrifice pour que nous n'ayons plus peur ni crainte de venir à Dieu. Il est l'offrande sans défaut, car son obéissance est pure, contrairement à la nôtre. Et même le jour de son arrestation, il a bien montré à ses disciples et au monde entier qu'il avait les moyens de tout arrêter. Mais à la dernière minute, juste en prononçant le mot « je suis », alors un soldat romain fut tombé par terre. Oui, nous fêtons la fête de Noël parce que le Fils de Dieu s'est donné à nous. Mais cela lui a coûté très cher, ne l'oublions pas. Apprendre à obéir son Père, on va dire que ça ira, puisque c'est son Père, mais obéir à des êtres humains comme nous, en la personne de Marie et de Joseph, c'est autre chose. Pour nous, c'est facile à dire, obéir, mais imaginons une minute un Dieu qui accepte l'organisation humaine jusqu'à ses 30 ans. Pendant 30 ans, il a vécu au chevet de ses parents. Il a accepté tous les ordres qu'on lui a dit. Même si ce n'est pas écrit dans les évangiles, il a été dit qu'il était obéissant. Il a fait tout ce qu'on lui a demandé. D'ailleurs, il a fallu rappeler à Marie, lors des fêtes de noces de Cana, rappelez-vous, Marie avait demandé à Jésus de faire quelque chose parce que le vin venait à manquer. Elle savait que son fils était capable de faire des choses extraordinaires. Et à ce moment-là, Jésus a répondu à sa mère, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire ? Mon heure n'est pas encore venue. » C'est en quelque sorte une façon de dire, de rappeler à Marie qui il est vraiment. N'oublie pas qui suis-je réellement. Même si je suis obéissant, même si je vais faire ce que tu vas me demander, mon heure n'est pas encore venue, mais pour montrer mon obéissance et mon respect envers toi, Mère, je vais le faire. Donc, normalement, Jésus n'aurait pas encore dû faire ce miracle. Mais il l'a fait pour obéir à sa mère. Je pense que cette histoire nous aide aussi à faire la réflexion suivante. Oui, Jésus, il est vrai que Jésus est à la fois un homme et un Dieu. Ce qui signifie que nous pouvons avoir certainement une proximité et une intimité profonde, comme étant son frère et sa sœur, c'est vrai. Mais n'oublie pas que ce Jésus que tu appelles frère, que ce Jésus que tu appelles ici, celui qui est le plus proche de toi, est aussi Dieu. Souvent, on l'oublie. Oh, l'enfant Jésus, qu'il est mignon, qu'il est beau. Mais n'oublie pas qu'il est Dieu. Son abaissement, son obéissance dans sa venue dans la chair n'égratigne en aucun cas sa divinité, ni sa majesté. Il reste toujours le roi des rois. Ne l'oublie pas, chers frères et sœurs en Christ. La scène de la transfiguration à la montagne était un moment crucial pour les disciples, car même s'ils voyaient tous les jours, ils voyaient Jésus tous les jours avec les miracles, parfois, les disciples oublient qui il était. Mais il était juste ébahi par son pouvoir et ses capacités à faire des choses extraordinaires. Mais le moment où ils ont vu toujours ce même Jésus qui partageait son pain avec ses disciples, qui marchait à côté d'eux, ce Jésus qui dormait avec eux dans la barque, ce Jésus qui rigolait aussi, qui partageait toute leur vie pendant 3 ans, à un moment donné dans leur vie, ils se sont rendus compte sur cette colline, lors de la transfiguration, qu'il était le Fils de Dieu, caché, mais aussi glorieux. C'est cela la différence de notre Dieu. Il est glorieux. Il a tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Et pourtant, il n'a pas besoin de se mettre en avant pour que les gens puissent s'en rendre compte. Seul, et cet après-midi, nous allons voir dans la scénette des enfants, seuls ceux qui viennent se courber devant cet enfant, comme les mages et les bergers, seuls ces gens-là qui ont vu qui il était vraiment.